nuit de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. L'auteur, celui des disparus de Saint-Agile, de Coupy-Marouge, des anciens de Saint-Loup, de Clavier Universel, du Pays sans étoiles et de tant d'autres romans policiers et poétiques. L'affaire qui vient, d'abord une histoire d'empreintes, mais dans le cas d'une enquête policière, on sait bien, les empreintes c'est un bonheur. Hélas, il n'y a pas toujours des empreintes pour dénoncer le criminel. Alors, la victime, un vieillard égorgé. Des suspects, autant de suspects que d'habitants. En règle générale, les persécutés ne se tuent pas pour embêter le plus longtemps possible leurs persécuteurs ou ceux qu'ils croient être leurs persécuteurs. Première diffusion sur France Culture, le 16 août 1985.
Les nouvelles du crime. Texte choisi et présenté par Francis Lacassin.
Pierre Véry, mort en 1960 à l'âge de 60 ans, fait partie de cette génération d'auteurs qui ont été marqués par le roman à énigmes, qui ont voulu en renouveler les règles, mais qui ont cependant refusé de le réduire au récit d'un fait divers sordide, comme l'a fait Dashiell Hammett. Le roman policier deviendra donc, chez Pierre Véry, sous sa plume, un roman de mystère, ce qui est tout dire. L'énigme chez lui se mue agréablement à un mystère, au sens poétique du terme, qui est souvent mis en scène dans un décor villageois ou champêtre, sur lequel passent des papillons et sur lequel on entend des airs de comptines enfantines. L'intrigue baigne souvent dans un climat féerique, auquel se prêtent des personnages qui, souvent, relèvent autant du rêve que de la réalité. Ainsi, dans Le Gentleman des Antipodes, l'auteur nous suggère, avec beaucoup d'ambiguïté et d'habileté, que ces personnages ont pour modèle des animaux, des oiseaux et même un hippopotame. Il nous montre également un assassin, ça il fallait le faire, qui commet un crime chez un entrepreneur de pompes funèbres. Ou encore, ça c'est encore plus osé, au quartier général de la police, dans Meurtre au quai des Orfèvres. Sans parler, bien entendu, du célèbre assassinat du Père Noël, dont le titre seul suffit à nous faire rêver. Pour débrouiller l'enchevêtrement du rêve et de la réalité, pour éclaircir le mystère poétique qui souvent dissimule l'assassin, Pierre Véry fait appel à un enquêteur fort différent des autres, qui s'appelle Prosper Lepic. Fort différent, car au contraire de ses confrères, Prosper Lepic ne se prend pas du tout au sérieux, mais pas du tout. D'ailleurs, il n'est pas un policier, mais il est presque le contraire, c'est-à-dire un avocat. Il ne recherche pas les criminels pour les livrer à la justice, il nous dit lui-même, il les recherche pour les défendre et se constituer ainsi une clientèle. Prosper Lepic se définit lui-même comme un démarcheur en crime, dans cette nouvelle au titre charmant mais trompeur, et qui s'appelle « Prenez garde au ballon rouge ».
La nature se met au service de Bertillon, constata l'avocat détective Prosper Lepic, montrant à son hôte la lande couverte de neige. Janvier commençait. Un feu de bûche répandait une sensation de bien-être et de sécurité. À l'occasion du second passage des Bécasses, Lepic était venu pour quelques jours chez son ami, M. Cousty, maire d'une petite commune perdue aux abords du camp militaire de la Braconne. Le Maine des Amours, ainsi s'appelait cette commune. Elle eût été mieux nommée le bout du monde. Les deux hommes, vêtus pour la chasse, cassaient solidement la croûte avant de partir pour une expédition de reconnaissance sur le terrain de leurs exploits imminents. « Pas de meilleur photographe que la neige, » disait Lepic. « Elle enregistre tout. Vous étiez seul, ou bien vous étiez deux ici, vous avez couru là, bondi, plus loin rampé, ici vous vous êtes arrêté, et elle dit combien de temps. Si vous avez pris un fardeau, ou si vous vous en êtes débarrassé, cette bavarde le dit. Elle révèle votre poids et, si vous faites une chute, votre taille. D'ailleurs, les dimensions de votre pied suffisent à trahir vos mensurations. La neige racontera tout. La neige qui s'est faite, indicateur. Le bohème déchiffreur d'énigmes en était là de sa divagation sur le thème policier lorsque les chiens grognèrent. La bonne introduisit un bancal dérisoire, mais que ses fonctions rendaient redoutables aux adeptes de l'école buissonnière. C'était le garde champêtre. Qu'y a-t-il, père Célestin ? Il y a, monsieur le maire, bredouilla le père Célestin, que je viens de trouver monsieur Beauregard assassiné dans la lande, égorgé comme un porc, sauf votre respect. Dans la lande, effectivement, ils trouvèrent l'homme mort sur la neige. Mais, hormis celle du garde champêtre, il n'y avait aucune empreinte de pas. Pas même les empreintes de l'homme mort. La maison Beauregard, une bâtisse solitaire, chagrine, des persiennes perpétuellement closes lui donnaient l'air d'une aveugle. Au-dessus du toit bas oscillait un ballonnet énorme fixé à la maîtresse poutre du grenier. Une maison de croque-mitaine loufoque ou bien d'alchimiste sorti d'une rêverie de Méliès. Point de jour qu'un gamin ne vint furtivement écrire au charbon sur les murs « Monsieur Beauregard a le mauvais œil », une facétie devenue classique. Au mène des amours, chacun détestait le hargneux vieillard. Lorsque le pic l'avait rencontré l'avant-veille, Beauregard rentrait d'une longue course dans la lande. Il tenait, au bout d'une ficelle, trois ballons rouges. Ses premiers mots avaient été « Comme cela, vous êtes de Paris, monsieur l'avocat. Eh bien, il vous intéressera peut-être d'apprendre que j'ai l'intention de faire un procès à la ville de Paris, où je possède des immeubles. » Il éclatait de jubilation et d'orgueil. « Un procès à la ville de Paris, parfaitement !» Un homme était survenu sur ces entrefaites. Beauregard avait fait les présentations. « Docteur Vinzon, maître Lepic du barreau de Paris. »« Je venais vous faire une piqûre, avait dit Vinzon, mais je repasserai. La santé est meilleure ?»«
Pour que ça aille mieux, il faudrait que la méchanceté humaine disparaisse. Ce n'est pas pour demain,
avait grogné Beauregard. Il s'était tourné vers Lepic.
Tout le monde me hait, tout le monde me vole. Heureusement, il y a les tribunaux. J'ai 4 procès en train, dont un à la municipalité et un à un journaliste d'Angoulême. »
Vinzon souriait. Vous vous faites du mauvais sang inutilement. Vous êtes riche. Vous pourriez
me laisser tondre la laine sur le dos. Grand merci. Je n'ai pas la vocation de mouton.
Et maintenant, Beauregard, comme un bonhomme de neige blanc et rouge, gisait, la gorge ouverte, dans la neige de la lande. Sur la lande toute blanche et où, si loin que l'on regarda, on apercevait d'autres empreintes que celles du maire, du garde, de Lepic et du docteur Vinzon.
« C'est à croire qu'il est tombé du ciel !» dit stupidement le maire.
Machinalement, le garde champêtre leva les yeux vers les nuages que le vent d'est poussait indolemment dans la direction de Coutras, vers l'océan.
Il est plus normal d'admettre qu'il a été assassiné avant que la neige ait cessé de tomber, observa avec simplicité Prosper Lepic. La neige a recouvert ses traces ainsi que celles du meurtrier. Lepic alluma un cigare. Il regardait le cadavre. Crime ou suicide? Il avait pensé tout haut.
« Pourquoi Beauregard se serait-il suicidé ?» fit le maire. « Il était riche !»
Le maire, lui aussi, était riche et n'avait aucune envie de se détruire.
« Vous le soignez, docteur. Comment se portait-il ? » ?»«
Remarquablement. Par exemple, ce qui allait moins bien, c'était le cerveau. »«
Il était complètement maboule !»
exprima sans embâge le garde champêtre. Évidemment, un sexagénaire qui passe le plus clair de son temps à se promener dans la campagne en tenant par un fil des ballons de couleur, cela donna jaser.
« Allons, allons !» fit le maire, puis à l'avocat. « Dans les petits pays, vous savez, mon cher maître, il n'y a pas besoin d'être très original pour que l'on décrète que vous êtes fou. »« C'était un vrai sauvage !» insista le garde champêtre avec entêtement. « Votre avis, docteur ?» demanda l'avocat. «
Délire de persécution, » déclara Vinzon. Un corbeau, merveilleusement noir sur la neige, se posa non loin du groupe.
Un coup de corne le fit s'envoler. Une auto débouchait sur la route proche. En descendit le juge d'instruction d'Angoulême que le maire avait appelé téléphoniquement. Le juge était parti sur le champ. Un inspecteur et deux gendarmes l'accompagnaient.
« C'est bien simple, » conclut le maire. « Si c'est un suicide, on va fatalement retrouver l'arme. »
Le malheur est qu'on ne la retrouva pas, en dépit de recherches minutieuses exécutées dans un vaste périmètre. Donc, crime.
« Voyez-vous des suspects ?» questionna le juge. « Et quel mobile, selon vous ? Intérêt ? Vengeance ?»
Intérêt et vengeance étaient deux mobiles également valables dans le cas de Bourgard. Quant aux suspects, on eût pu dire qu'il y en avait autant que d'habitants au Maine des Amours. Tout le monde détestait le maniaque au ballon rouge. Un long silence suivit. Il n'était plus quatre, mais huit à considérer avec perplexité la lande blafarde au centre de laquelle reposait, comme une énigme terrifiante, le vieillard égorgé.
Tandis que le juge questionnait les voisins, l'inspecteur visita la maison où le mort avait vécu seul, en hypochondriaque. Vivement impressionné par la personnalité bien parisienne de Lepic, et surtout par sa réputation de déchiffreur d'énigmes, le policier avait accepté avec empressement que l'avocat l'accompagnât. Par exemple, quelle surprise ! Une des chambres était pleine de ballonnets d'enfants. Rouges, bleus, jaunes, verts, roses, attachés en grappe par des fils à des supports posés sur le parquet. Il flottait à 50 cm du plafond, oscillant au moindre souffle. On eût dit une végétation de rêve, des baies fantastiques miraculeusement soutenues par des tiges d'une incroyable souplesse.
« Le garde champêtre avait raison, » fit l'inspecteur. « Il était légèrement dérangé. »
Lepic ne répondit pas. Mais il était d'un avis différent pour avoir vu dans la bibliothèque tout un rayon d'ouvrages traitant de météorologie. On le voyait souvent se promener dans la campagne en tenant un ballon rouge, comme un gosse.
Parbleu, Beauregard s'intéressait aux phénomènes atmosphériques, il étudiait les courants, la force et la vitesse des vents, les variations de pression.
Un moment après, dans l'unique auberge du Maine des Amours, Lepic retrouvait le docteur Vinzon. Par la porte ouverte, ils virent passer le juge et l'inspecteur en conversation fort animée avec le maire, ce qui, naturellement, ramena une fois de plus leur pensée à l'affaire Bourgard.
Personnellement, je ne crois pas au crime, dit Lepic. J'ai la conviction que Bourgard s'est suicidé. Aussi, je voudrais vous poser une question sur le plan scientifique, docteur. Beauregard, m'avez-vous dit, faisait un délire de persécution. Il avait la conviction que l'on voulait attenter à sa vie. Selon vous, le raisonnement suivant a-t-il pu germer dans son cerveau malade? Si j'attends que mes ennemis frappent, ils sont fort capables de maquiller mon assassinat en suicide, si bien que je ne serai même pas vengé. Tandis que si je me donne la mort, mais en maquillant mon suicide de telle sorte que la justice croit à un crime, on accusera mes ennemis de ma mort. Beauregard a-t-il pu faire ce genre de raisonnement?
Vinzon réfléchissait. Parfaitement plausible, déclara-t-il enfin. « Ce machiavélisme logique dans l'absurde est exactement dans la ligne de ce que ce genre d'anxieux vindicatif pouvait imaginer. Des faits semblables sont relatés dans de très nombreuses observations. C'est le cas classique du persécuté-persécuteur. Toutefois, corrigea-t-il, je ne suis pas de votre avis. Il semble bien que l'hypothèse du suicide soit à exclure. En effet, comment Beauregard aurait-il pu maquiller son suicide en meurtre ? Bah ! Fit le pic. Toute l'astuce a consisté à faire disparaître l'arme qu'il a utilisée. J'entends bien, dit Vinzon. Mais comment cette inexplicable prestidigitation aurait-elle pu être réalisée ? Bien facile ! Bien facile ? S'ébahit le docteur. L'avocat souriait. Cela pose un gentil petit problème. Comment un homme qui vient de se trancher la gorge avec un rasoir peut-il ensuite faire disparaître ce rasoir afin de faire croire à un crime ? Eh bien, mon cher docteur, c'est enfantin. Enfantin est le mot. Regardez. Il montrait le fils de l'aubergiste qui faisait des bulles de savon. Les ballonnets ?
Les ballonnets ? Répéta Vinzon.
Mais oui ! Beauregard attache 5 ou 6 ballons à la lame d'un rasoir dont il a au préalable retiré le manche pour obtenir le poids minimum. Seul, dans la plaine, assuré de n'être pas vu, il se tranche la gorge. Que se passe-t-il alors ? Ses doigts lâchent la lame ensanglantée, laquelle s'envole, emportée par les ballonnets. Et voilà le problème résolu.
C'est de la haute fantaisie, mon cher maître.
Eh ! Les fous sont de grands fantaisistes, mon cher docteur. Cela nous explique que Beauregard ne se soit pas tiré une balle dans la tête. La force ascensionnelle des ballonnets n'eût pas été suffisante pour enlever le revolver. Même remarque en ce qui concerne un poignard. L'arme fut restée enfoncée dans la plaie, tandis qu'une mince lame de rasoir...
Vinzon demeura muet. Il objecta.
Beauregard n'a pas pu ne pas se dire que ces ballonnets, alourdis par l'humidité, au crépuscule, retomberaient, qu'on les trouverait, et qu'alors... Et évidemment ! Mais il pouvait espérer aussi que la chaleur du milieu du jour les ferait éclater, ou qu'ils iraient se perdre et se déchirer très loin dans la forêt de la Braconne, que sais-je. Et n'oublions pas qu'il était fou.
C'est admissible, dit enfin Vinzon. Et que comptez-vous faire ?
Le vent souffle de l'ouest, c'est-à-dire dans la même direction que ce matin, vers Angoulême. Si mon hypothèse n'est pas insensée, il n'est pas absolument interdit d'espérer retrouver les ballonnets de notre suicidé accrochés dans les branches, étant donné que le poids du rasoir les aura empêchés de s'élever très haut.
La chance me paraît bien minime.
Mais non pas nulle. Et faute de mieux, je compte partir en expédition après le déjeuner. Si cela vous amusait de m'accompagner...
« Volontiers. » Le pic vida son verre et se dressa.
« Pas un mot au juge ni à l'inspecteur. Au cas, qui n'est que trop probable, d'un échec, je serai ridiculisé à tout jamais dans leur esprit. Mais j'ai l'intention d'amener un chien de chasse. »
« Un chien de chasse ?» Le pic, pour toute réponse, sourit.
À 2 heures de l'après-midi, ils se retrouvèrent dans la plaine à l'endroit où avait été découvert le cadavre. Le pic portait un carton à chapeau.
« Voici mon chien de chasse !» dit-il en riant.
Le carton renfermait un ballon rouge.
« Mes procédés d'investigation ne sont pas ceux de tout le monde, c'est bien connu. »
Il lâcha le ballonnet qui prit le vent. Il tenait l'extrémité d'un fil long d'une 20aine de mètres. Ils s'avancèrent dans cet équipage vers la forêt.
Il sautait les ruisseaux, contournait les haies, franchissait les jachères. De temps à autre, le pic donnait de légères secousses au fil comme un pêcheur qui tâte le poisson. En forêt, il dut raccourcir considérablement la longueur du fil, ce qui risquait de fausser l'expérience. Aussi devait-il faire des crochets sur crochets. Néanmoins, le ballon continuait de les guider. « Écoutez, » dit le docteur, après un moment de ce cheminement en zigzag, « c'est un peu risible ce que nous faisons. Nous ne trouvons rien. »« Vraiment ?» répliqua le pic, d'un ton si bizarre que l'autre, surpris, le considéra, puis suivit la direction du regard de l'avocat. « Là-bas !» murmura le pic. « Vous les voyez ?» Quatre ballons, accrochés à mi-hauteur d'un jeune chêne, à une quarantaine de mètres sur leur droite. Ils s'approchèrent sur la pointe des pieds et en parlant bas, comme on s'avancerait vers des oiseaux avec la crainte qu'ils ne s'envolent au bruit. Au fil reliant les ballonnets était suspendue une lame de rasoir tachée de brun. Du sang séché. « Bravo !» dit Vinzon. « La preuve du suicide est faite. Dommage que vous n'ayez pas amené le juge et l'inspecteur. »« Je ne suis pas un policier, je suis un avocat, » répondit le pic. « Je ne recherche pas les assassins pour les livrer à la justice, mais pour m'assurer leur clientèle. S'il m'arrive par chance de les découvrir avant la police, et cela s'est produit plus d'une fois, » glissa-t-il avec malice, « je m'efforce de leur faire entendre que leur intérêt bien compris leur commande de me confier le soin de leur défense aux assises. En somme, je cherche, » acheva-t-il sarcastiquement, « à couper l'herbe sous le pied de mes confrères. Je suis, si vous voulez, un démarcheur en crime. Les affaires sont dures, on recrute sa clientèle comme on peut. » Le médecin rit de bon cœur. « C'est ingénieux. Malheureusement, cette fois, vous en serez pour votre peine. »
« Je ne crois pas. »«
Comment cela ? Puisqu'il s'agit d'un suicide, vous venez d'en faire vous-même la preuve. »«
Je n'ai jamais cru au suicide de Beauregard, » dit pensivement le pic. Puis, sur un autre ton,
« Allons, docteur, » lança-t-il. « Soyez beau joueur. Vous êtes tombé dans le piège que je vous tendais. Beauregard a été assassiné. Assassiné par vous. Vous devenez fou, » dit Vinzon avec un recul. Ces ballonnets fournissent la preuve irréfutable de votre culpabilité.
Comment cela?
Pour la raison très simple que s'il était venu à Beauregard le dessein de se suicider de la façon extravagante et puérilement compliquée que j'ai imaginée, les ballonnets ne serait pas venu s'échouer ici, mais dans une direction diamétralement opposée.
Et pourquoi?
Parce que le vent, ce matin, ne soufflait pas vers Angoulême, contrairement à ce que je vous ai dit, mais vers Coutras, vers l'océan. Il ne venait pas de l'ouest, mais de l'est. Par conséquent, il a nécessairement fallu que les ballonnets aient été apportés ici et accrochés. Par qui, sinon par le meurtrier, dans le but d'accréditer la théorie du suicide? Or, vous étiez seul au courant de mon abracadabrante théorie des ballonnets. Donc, le meurtrier, c'est vous. » Pendant l'heure du déjeuner, vous êtes venu ici avec ces quatre ballonnets et ce vieux rasoir sans manche, suivant très exactement mes moindres suggestions. Vous avez grimpé à cet arbre. Voyez ces légères érosions sur le tronc et sur cette basse branche. Tandis que nous marchions, j'ai observé votre petit manège. Vous me guidiez prudemment, sans qu'il y parût. Et je suis bien persuadé, acheva-t-il, que
Si l'on vous contraignait à vous dévêtir, on trouverait sur votre cuisse la trace d'une piqûre, la marque de l'aiguille de la seringue qui vous a permis de prélever sur vous-même le sang qu'il fallait pour tacher la lame du rasoir.
Ah ! N'essayez pas de me faire le méchant !
Ajouta-t-il précipitamment en braquant un revolver sur Vinzon, comme celui-ci, revenu de sa stupéfaction et emporté par la rage, s'apprêtait à se ruer sur lui.
« Je ne suis pas votre ennemi, » fit doucement le pic. « Sinon, j'aurais amené le juge et l'inspecteur. »«
Eh bien, oui, » murmura Vinzon. J'étais là de ruminer mes rêves déçus, mes rêves d'enterrer vivant dans ce pays perdu. J'ai tué Beauregard pour le voler. Je savais qu'il gardait chez lui en pièces d'or des sommes considérables, une vraie fortune. Vous avez profité de vos nombreuses visites chez lui, tandis que vous le soignez, pour tâcher de découvrir où il cachait son trésor. Je l'ai découvert hier. Mais dès que Beauregard s'est aperçu du vol, c'est vous qui l'a tout de suite soupçonné?
Oui. Ce matin, à l'aube, il m'a appelé, téléphoniquement, se disant au plus mal. Chez lui, je n'ai trouvé personne. J'ai deviné qu'il ne m'avait téléphoné que pour m'éloigner de ma maison, afin de s'y introduire pendant mon absence. Je vis seul et ma bonne loge chez son mari. Ainsi, il avait toute facilité pour rechercher la cassette que je lui avais dérobée.
Vous êtes revenu en hâte et vous avez rencontré Beauregard dans la lande.
Il avait trouvé et repris la cassette. Il s'en est suivi la scène que vous pouvez imaginer. Je me suis vu perdu. Alors, dans une minute d'affolement...
Avec quoi l'avez-vous tué?
Quand je fais mes visites à domicile... J'emporte toujours dans ma trousse un bistouri.
Je vois.
Ensuite, je me suis enfui. La neige qui tombait encore a recouvert toutes les empreintes. Il y eut un assez long silence.
Pour songer à me tendre le piège des ballons rouges, c'est donc que vous me soupçonniez. Vous rappelez-vous, dit l'avocat, quand je vous ai demandé si l'idée d'un suicide maquillé en crime pouvait venir à un individu faisant un délire de persécution. C'est votre réponse qui a éveillé mes soupçons. Vous avez complaisamment appuyé cette hypothèse du suicide qui vous arrangeait si bien. Vous m'avez dit que c'était là un cas fréquent, souvent cité dans les observations. Or, j'ai lu beaucoup d'observations sur les délires, docteur, et je suis lié d'amitié à plusieurs psychiatres, et je savais que tel n'est pas le processus ordinaire de ce genre de démence. En règle générale, les persécutés ne se tuent pas. Bien au contraire, ils tiennent à vivre. Pour embêter le plus longtemps possible leurs concitoyens. Dès lors, une question se posait. Ou bien le docteur Vinzon est un ignorant, ou bien il ment. Or, il m'avait suffi de quelques minutes de conversation pour juger que vous étiez un homme de valeur.
Mais qu'allez-vous faire? Questionna l'autre. Me dénoncer?
C'est contraire à mes principes. De sorte que je suis bien embarrassé,
avoua le pic, en faisant sauter son revolver dans sa paume.
Vous pourriez vous livrer, par exemple. Ce serait le mieux, à tous les points de vue. Je me ferais une joie de mettre mon talent au service de votre tête. Quoi qu'il en soit, c'est à vous de dénouer la situation.
Sur ces mots, après un regard singulier vers les ballons rouges, il s'éloigna. Un moment plus tard, alors qu'il n'était guère éloigné du Maine des Amours, il vit filer haut dans le ciel un ballon rouge, puis un autre, puis encore deux autres.
Aussitôt, il se mit à courir de toute sa vitesse vers le village pour alerter le juge et l'inspecteur, car ce passage de ballon lui parut signifier sans aucun doute possible que le meurtrier de Beauregard avait découvert un moyen de dénouer la situation. Un moyen lugubre, mais radical. Effectivement, une heure plus tard, le pic flanqué du maire, du juge et de l'inspecteur trouva au pied du chêne le cadavre du docteur. Après avoir rédigé une brève confession, Vinzon s'était tranché la gorge avec le rasoir, tachant ainsi ce dernier de son sang pour la seconde fois.
C'était « Prenez garde au ballon rouge » de Pierre Véry. Avec la voix de Rémi Kirsch. Prise de son, Daniel Cogol et Marie-Cécile Amalzoni. Réalisation, Jacques Béraud.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 16 août 1985. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.